Vous écoutez
RMC.
C'est 7h59, il fait beau Géraldine.
Beau et bon, douceur quand même assez exceptionnelle avec sans doute des records qui vont d'ailleurs être battus ce matin. Cet après-midi, on attend 16 degrés à Paris, à Lille, 17 à Lyon, 18 à Marseille, Bourges, 20 à Bordeaux, 21 à Toulouse, jusqu'à 23 degrés à Biarritz. Alors journée calme, mais on vous avait prévenu, la décrue sera lente, donc on reste en vigilance sur plusieurs départements. Vigilance rouge notamment sur la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime. Journée calme avec quand même pas mal de nuages qui vont résister au nord de la Seine, mais partout ailleurs, c'est bien le soleil qui va s'imposer. Soleil qui s'imposera partout demain avec un pic de douceur attendu. On aura 19 degrés de moyenne sur tout le pays.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Merci d'avoir choisi RMC. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Imaginez des policiers à l'entrée des lycées pour en assurer la sécurité. Eh bien, c'est ce qui se passe ce matin à Bron, où un lycéen de 15 ans est entre la vie et la mort depuis hier, depuis qu'il a été poignardé près de son établissement scolaire. RMC est en direct sur place ce matin. Vous verrez que la sécurité et la question des alliances à gauche est au cœur de la campagne des municipales à Lyon, 10 jours maintenant après la mort du militant nationaliste Quentin Derenque. Et on va retourner, dans ce journal sur RMC, sur le front, en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'on est 4 ans jour pour jour ce matin après le début de la guerre.
Des policiers sont donc déployés ce matin devant le lycée Béjuy de Bron.
Oui, c'est dans la banlieue de Lyon et c'est là qu'un adolescent de 15 ans a été poignardé à l'arme blanche hier près d'une maison de quartier et près de son lycée également. Où vous êtes en direct ce matin, Vincent Chevalier, en correspondant de RMC dans la région de Lyon. Vincent Chevalier, les cours reprennent ce matin sous présence policière.
Oui, scène assez inhabituelle pour ces lycéens. Des policiers municipaux accompagnés par des membres d'une cellule d'aide psychologique accompagnent la rentrée des élèves ce matin. Les surveillants sont aussi présents avec des membres de la direction, un personnel sous le choc, encore très ému des événements de la veille. Pareil pour les lycéens comme Kevin.
Moi, ça m'a un peu choqué. Ma mère m'avait dit de plus venir à l'école parce que c'était un peu choquant pour elle. C'est pour ça. Ouais, elle m'a dit de faire attention. Mais bon, ça arrive très rarement. Et puis j'espère que ça arrivera plus. C'est grave que ça arrive au lycée quand même.
Hier, vers 15h30, une bagarre éclate entre plusieurs jeunes. À seulement quelques pas des portes de ce lycée professionnel, l'un des jeunes sort un couteau, poignarde la victime, au moins un coup au niveau de l'aisselle avant de prendre la fuite. La victime, un élève de seconde dans cet établissement, est dans un état grave quand il est pris en charge par les secours. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte.
Vincent Chevalier, en direct de Bron, donc ce matin pour RMC. C'est une nouvelle affaire de violence dans la région lyonnaise où donc la sécurité devient le sujet de la campagne des élections municipales. Autant que la question des alliances à gauche entre socialistes et insoumis. Vous savez qu'on est 10 jours maintenant après la mort du militant nationaliste Quentin Derenque. À Lyon précisément, le maire sortant, l'écologiste Grégory Doucet, est candidat à sa propre succession sans le soutien des insoumis qui présentent une liste de leur côté, mais Thomas Becker du service politique RMC, vous nous dites que c'est quand même un sujet de campagne.
Oui, le camp de Jean-Michel Aulas accuse le maire sortant Grégory Doucet de proximité avec les insoumis et la jeune garde, Pierre Oliver, maire LR du 2e arrondissement.
On sait que la majorité municipale de Grégory Doucet est extrêmement proche de ce mouvement fondé par le fichier S Raphaël Arnaud. Cette proximité avec LFI, l'extrême gauche et les écolos, c'est un retentissement tout particulier ici à Lyon.
Sauf qu'au premier tour, il y a bien une candidature insoumise, distincte du reste de la gauche, rappelle le maire de Lyon pour balayer ces accusations, mais le RN insiste sur la responsabilité politique du maire. Florian Patard est candidat dans le 9e arrondissement.
Grégory Doucet, en 2024, soutenait les candidats du Front Populaire qui avaient parmi effectivement leur propagande officielle de campagne et bien la jeune garde comme soutien.
Cerné par ses concurrents, le maire écologiste en campagne dénonce une instrumentalisation.
Il y a une enquête et un travail des enquêteurs et de la justice à respecter. Récupérer d'une façon ou d'une autre politiquement le décès d'un jeune homme de 23 ans, c'est tout simplement indécent.
Attaqué sur son bilan sécuritaire, il rappelle avoir maintenu l'armement de la police municipale et investi dès son arrivée dans la vidéosurveillance.
Et il en sera question ce soir sur BFM TV, puisqu'Apolline, ce soir sur BFM, présentera le débat avec les 4 principaux candidats dans cette ville de Lyon. Avant ça, les GG, les grandes gueules, ils seront ce matin à partir de 9h en direct depuis Lyon, donc sur RMC. Et puisqu'on parle des municipales, à Marseille, la candidate de la droite, Martine Vassal, publie là, à l'instant, une photo de tag sur sa permanence de campagne à mort vassale. Voilà ce qu'il est écrit. Elle accuse l'ultra-gauche avec qui, dit-elle, le maire sortant Benoît Payan s'affiche sans gêne. C'est ce que dit donc Martine Vassal. Et c'est dans ce contexte que se tiendra à l'Élysée ce matin à 10h une réunion consacrée aux groupes violents. Autre sujet du jour, c'est le gouvernement qui cherche à faire des économies et qui a l'intention de récupérer précisément 2 milliards d'euros avec son projet de loi contre la fraude sociale et fiscale. Texte qui a été adopté et durci en fin d'année dernière au Sénat et qui sera débattu à partir de ce soir à l'Assemblée nationale. Il y a un volet qui concerne les particuliers et un autre qui concerne les entreprises et donc la lutte contre ce qu'on appelle le travail au noir, Anna Jojard.
Oui, le gouvernement a déposé un amendement pour permettre de fermer temporairement les structures qui auraient permis directement ou indirectement le travail au noir. Le projet de loi prévoit aussi la création d'une procédure de flagrance sociale. Concrètement, dès que du travail dissimulé serait détecté, les agents pourraient alors saisir les actifs à titre conservatoire. Une bonne nouvelle pour Théodore Aslamatitis, secrétaire régional du Centef-CFDT, syndicat qui représente notamment les inspecteurs du travail et qui regrette aujourd'hui des procédures qui sont souvent trop longues.
Là, les entreprises, ils ont vraiment le temps de fermer, voire de changer plusieurs fois de propriétaire avant qu'on puisse les attraper. Donc cette procédure d'accélération a supposé qu'elle arrive à bien coordonner tous les services existants pour créer une force de frappe, va évidemment dans le bon sens.
Avec de telles mesures, le ministre du Travail espère bien tripler le taux de recouvrement sur la fraude au travail dissimulé.
Il est 8h05 sur RMC. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est en Ukraine ce matin. Pourquoi? Eh bien, pour commémorer les 4 ans du début de la guerre et de l'invasion des Russes qui contrôlent désormais 20% du territoire ukrainien. À cette occasion, Volodymyr Zelensky donne une interview à la télé américaine pour demander à Donald Trump de, dit-il, rester dans le camp des Ukrainiens. Marion Gauthier, adjoint pour RMC, des Ukrainiens engagés dans le conflit.
Elle répond depuis un camp de formation. Marina, 40 ans, s'est engagée dans l'armée ukrainienne.
On vit sous terre parce que les camps de formation sont régulièrement frappés.
Encore quelques jours d'entraînement par moins 20 degrés, sans autre espoir que d'aller soutenir le front.
Les conditions sont devenues encore plus dures. Une connaissance vient de passer 60 jours au front. Moi, la décision, je l'ai prise en mai quand j'ai compris que ma ville natale peut aussi se retrouver sous occupation. Les Russes avancent, le soutien persiste, mais s'effrite. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on a comme choix?
L'armée russe occupe notamment une grande partie du Donbass, mais elle avance lentement, souligne le consultant Stéphane Audran, et Kiev assurait ce week-end d'avoir libéré 300 km² dans le sud du pays.
Alors que depuis 2 ans, les Ukrainiens prenaient des coups sans trop pouvoir contre-attaquer, là, on voit depuis Noël des vrais mouvements de contre qui s'accumulent, et donc les Ukrainiens lancent des contre-attaques. Mais c'est vrai que sur le plan territorial, la guerre est assez stable. Ce qu'il vise, c'est à s'infliger plus de pertes que n'est soutenable par l'autre.
Une guerre d'usure, plus coûteuse, dit-il, pour la Russie. Les morts se comptent en centaines de milliers.
Deux informations aux États-Unis ce matin. D'abord, les nouveaux droits de douane de Donald Trump entrent en vigueur. Ça y est, ce matin, 10% pour tout le monde. Après, ceux qui ont été mis à la poubelle la semaine dernière, le revers devant la Cour suprême concernant les précédents droits de douane. Et alors, c'est pas le moment de prendre l'avion pour aller là-bas aux États-Unis avec la tempête de neige qui a balayé toute la côte est. État d'urgence décrété dans 8 États, dont celui de New York. 6000 vols annulés hier. Il y en a déjà 2000 pour aujourd'hui. 40 millions d'Américains qui sont concernés. Chez nous en France, il y a toujours 3 départements en alerte rouge pour les inondations. Ça fait 10 jours quand même. Et la décrue, comme prévu, est très lente. J'ai regardé ce matin dans les villes dont on parle beaucoup. Le niveau de la Charente a baissé de seulement 10 cm en 24 heures à Saintes. Une quinzaine seulement pour la Maine à Angers. Écoutez pourquoi ça prend autant de temps avec l'hydrologue Emma Aziza.
Si la décrue est lente, c'est dû au fait que vous avez énormément de petits affluents à des rivières qui se sont mises en charge, donc avec des crues secondaires. Et toutes ces eaux-là, sont arrivées sur le fleuve. Donc ça génère des sortes d'effets de bouchons qui, d'affluent en affluent, ont bloqué complètement les écoulements. Donc ça prend du temps. La crue était exceptionnelle. Donc il faut s'attendre à un retour à la normale qui devrait arriver pas avant au moins une bonne semaine, suivant les bassins, mais c'est extrêmement variable d'un territoire à l'autre.
Et même pas dit que ça s'accélère avec le redoux, là, soudainement, il va faire jusqu'à 25 degrés aujourd'hui au pied des Pyrénées.
Je suis tellement fou. C'était donc le journal de Quentin Vinet, et à 8h08, on va parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre, les garagistes font moins de réparations, mais par contre, c'est plus cher.
Oui, la tendance vaut pour les ateliers de mécanique, comme pour les ateliers de carrosserie, nous dit le dernier baromètre Mobilance Soloire. Alors, pour les dégâts mécaniques, les garagistes de l'Hexagone ont accueilli moins de voitures à réparer en 2025, 2% de moins qu'en 2024, mais ils les ont restituées à leurs propriétaires avec une facture en hausse de presque 3% à 403 euros en moyenne contre 392 l'année précédente. La baisse de fréquentation est à peu près similaire pour les ateliers de carrosserie. Par contre, la réparation moyenne a augmenté de plus de 4%. C'est plus que pour la mécanique. Et là, on est à 1705 euros contre 1634 en 2024. Oui, la tôle froissée, ça coûte plus cher. Et s'il y a moins d'interventions, c'est parce que malgré le vieillissement du parc, les gens réparent de plus en plus eux-mêmes.
Et le problème, c'est que ça fait longtemps que ça augmente, en fait.
Oui, alors... La bonne nouvelle, c'est que c'est un peu plus raisonnable. Hein. Effectivement, le coût des réparations avait dérapé.
C'était pire avant.
Ah ouais, après la crise sanitaire, c'était fou. Hein. Rappelez-vous, l'inflation qui s'emballe sur fond de rupture d'approvisionnement dans toute la filière automobile. En 2023, on est sur une hausse de 12% du prix des réparations. Là, on est revenu sur des niveaux beaucoup, beaucoup plus raisonnables. Alors, toujours pareil, hein, attention aux moyennes. Les garagistes ont fait des efforts pour serrer les prix sur les réparations les plus simples, la révision climatisation, le diagnostic électronique. Là, on a même des prix en véritable baisse. Ça arrive. Et puis, la hausse a été plus marquée, par contre, sur les réparations un peu plus complexes. Soit parce que les interventions sont plus techniques, c'est le cas notamment sur les voitures électriques, soit parce que les pièces et les produits coûtent plus cher. La peinture, elle a augmenté de 6%. Par exemple, une courroie de distribution, c'est 12% d'augmentation. Des plaquettes de frein, 11%.
Tous les Français sont pas logés à la même enseigne. Hein.
Non, et là, c'est d'autres études qui nous le disent. Les écarts entre départements tendent à diminuer, mais restent quand même très importants. La région la plus chère pour faire réparer sa voiture, c'est la Corse. On est au moins 20% plus cher que la moyenne nationale. C'est pas beaucoup mieux à Paris. Les Bouches-du-Rhône, les Vosges, les Hautes-Pyrénées, la Meuse restent très supérieurs, eux aussi, à la moyenne nationale. À l'inverse, les départements les moins chers, c'est les Côtes-d'Armor et le Pas-de-Calais, où là, on est sur des niveaux qui sont 20% inférieurs à peu près à la moyenne nationale.
Merci Emmanuel, il est 8h11. Et on part à Lyon, parce que vous y êtes, Alain, Olivier, Alain Marchal, à 9h.
Bonjour Apolline.
Vous avez posé les GG au cœur de Lyon.
Oui, les grandes gueules sont en direct du Palais de la Bourse, ici à Lyon. Magnifique décor historique pour les GG, pour nos discussions de 9h à midi. Lyon, pour les élections municipales, c'est un chef d'entreprise qui est favori, Jean-Michel Aulas, favori du scrutin. D'ailleurs, il y aura un grand débat ce soir à suivre en direct sur RMC entre les candidats. Alors justement, est-ce que les Lyonnais vont voter pour un chef d'entreprise et non pas un homme politique? On leur posera la question, on en débattra avec nos amis de BFM Lyon. Et puis, à la mode grande gueule, on passera en revue, bien sûr, toute l'actualité du moment. Jean-Luc Mélenchon qui continue de soutenir la jeune garde. On regardera le gouvernement qui veut lutter aussi contre le travail au noir. Est-ce que c'est mission impossible? Et puis on donnera la parole aux Lyonnais, au public, puisque notre émission est en direct et en public de 9h à midi ici au Palais de la Bourse à Lyon. Voilà le programme, ma chère.
Voilà le programme, cher Alain. Donc c'est au Palais de la Bourse, vous pouvez aller les voir. Et puis moi j'y serai aussi ce soir, puisqu'effectivement dans ce décor formidable, j'animerai le deuxième débat des municipales. 4 candidats face à moi, rendez-vous à 20h55 sur BFM TV ce soir. Il est 8h12 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, le meilleur d'Arnaud Demanche. À 8h30, l'invité du face-à-face, ce sera Thierry Breton, l'ancien ministre de l'économie et ancien commissaire européen. Rendez-vous donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15, vous êtes bien sûr à RMC et à RMC Story. Il a pris quelques jours, Arnaud Demanche, mais on a gardé le meilleur, écoutez.
Bonjour, bonjour les amis. Ah, ça fait du bien d'attaquer une nouvelle semaine avec vous sur RMC. RMC, la seule radio qui ne vous parle pas de Pierre Ninet toutes les 3 minutes. Non, mais c'est fou en ce moment. T'allumes un écran, boum, il est là. C'est le Alain Bauer du cinéma. Je n'en peux plus. Je mange Pierre Ninet, je dors Pierre Ninet. Hier, j'ai fait l'amour avec ma femme. Elle m'a dit « À quoi tu penses ?» J'ai même pas osé répondre. Il est obsédant, ce type. J'adore Pierre Ninet, hein, mais bon, j'aime aussi le chocolat. C'est pas pour autant que j'en bouffe 12 kilos par jour.
Un coup de tonnerre, Arnaud, s'est produit ce week-end dans la campagne présidentielle pour 2027.
Oui, c'était un week-end choc, ouais. Une journée charnière. Apolline, Lucie Castet a annoncé qu'elle ne serait pas candidate.
Non. Dites-moi pas que c'est pas vrai.
Ça fait quelque chose. C'est fou, hein, le parcours de Lucie Castet. Quel destin. Il y a un an, personne la connaissait, tout le monde s'en foutait. Et maintenant, regardez, tout le monde s'en fout aussi, sauf qu'on la connaît. Depuis. On n'avait pas vu une telle carrière politique depuis Stanislas Guérini. D'ailleurs, mauvaise nouvelle, Stanislas Guérini aussi renonce à 2027.
Oh non, me dites pas ça.
Et à 2032. Oh. Il l'a pas déclaré encore. Je le fais à sa place. Hein, ça fait gagner du temps à tout le monde.
Arnaud, 3 millions de documents relatifs à l'affaire Epstein ont été divulgués par la justice américaine.
Et c'est atroce. On lit des monstruosités sur les célébrités qui se rendaient dans des soirées de débauche. Moi, j'ai épluché quelques pages en me disant « Pourvu que Thomas Pesquet soit dedans !» Eh bien, figurez-vous que ce salaud n'y est même pas. Il n'y a vraiment décidément rien à lui reprocher. Monsieur parfait. Épuisant.
Vous sinon, faites une petite obsession peut-être sur Thomas Pesquet et Pierre Ninet.
Les deux. J'arrive pas à les détester. Sinon, il y a énormément de célébrités. Donald Trump, le prince Andrew, c'est accablant pour eux. Ils sont à un point où Bolloré peut leur proposer une quotidienne. Et sur Twitter, dans les forums, j'ai vu aussi Woody Allen, Bill Gates, Cyril Ferraud. Grosse surprise, les photos de Cyril Ferraud tout nu avec les nains de Fort Boyard et Nagui. Vous avez vu ça? Ah ça, non. C'est pas Théo Curin qui aurait eu les mains baladeuses comme ça.
Oh non.
Pareil, les vidéos entre Jeffrey Epstein, les frères Lebrun et Lynn Renault.
Oh non.
Énorme choc. Vous savez pas qu'on pouvait faire des trucs comme ça avec du maroilles et des raquettes de ping-pong. Oh non. T'es au courant? Et alors les photos de Bill Gates avec Jean-Jacques Goldman, alors là c'est le pompon. Surtout la partie avec la crème fouettée, les pinces à linge, les tuyaux en plastique, le lubrifiant et les hamsters. Et Michel Drucker qui filme, vraiment c'est épouvantable. Attention, il paraît qu'il y a beaucoup de témoignages farfelus dans les 3 millions de pages. La séquence zoophile avec Danny Boone et Grand Corps Malade, c'est peut-être un fake. Attention à ce que vous lisez sur Internet.
Allez, ce que vous entendez sur RMC.
Gros bisous.
Merci Arnaud Demange, qu'on retrouve à tout moment en
et
podcast.
Bon petit déjeuner.
Sur RMC. Sur RMC.fr. Il est 8h18 et c'est l'heure de partir en vacances, c'est l'heure de vous féliciter. Eric, bonjour Eric.
Bonjour Apolline, bonjour
Eric,
l'équipe.
C'est vous qui avez gagné, le séjour, les vacances, bel embras, félicitations.
Oh, c'est super, merci beaucoup, trop génial.
J'avoue qu'on est très heureux pour vous, on est même prêt à partir avec vous.
Un peu jaloux.
Vous pouvez me dire, volontiers.
Eric, vous vivez dans l'Ain, c'est ça?
Tout à fait, oui, à côté de Mâcon, un petit village.
Est-ce que vous savez déjà ce qui vous fait rêver? Est-ce que vous voulez aller au soleil, à la montagne, à la mer?
On adore la France, donc on adore la Corse. Je connais pas la Bretagne, donc peut-être soit l'un, soit l'autre.
C'est sympa ça, effectivement, de pas connaître la. Franchement, je suis heureuse pour vous de vous dire que vous avez encore la Bretagne à découvrir. Moi aussi, j'adore la France. En fait, à chaque fois que je pars de France, je me dis mais pourquoi je suis partie? En fait, c'est tellement plus sympa. Merci en tout cas, Eric, de votre fidélité. On est très heureux de pouvoir la. La récompenser avec ce séjour Bel Embras. Tous les jours, on vous fait gagner un séjour Bel Embras. Toute la semaine, on vous fait gagner vos vacances. Et les messages, Mathieu, les réactions, notamment à ces témoignages sur la drogue depuis ce matin, la consommation de drogue qui explose en France.
Elle est saisie aussi, et on parle de drogue dure, hein, cocaïne bien sûr, on en parle souvent, ecstasy, MDMA aussi, 480% de hausse en 13 ans pour les drogues, comme l'ecstasy nous dit Ralph, ça me fait halluciner. Par contre, ce qui me choque le plus, c'est que moi, dans ce cas, je voudrais qu'on ait des contrôles médicaux dans les entreprises, qu'on sache qui se drogue, parce que ça veut dire que j'ai des collègues à moi qui le font dans cet état, et j'ai pas envie de mourir au travail à cause d'eux. Voilà ce qu'écrit Ralph ce matin au sujet de la toxicomanie au 0612 424 424. Vous continuez à nous écrire. D'ailleurs, Martine nous écrit aujourd'hui en France, l'État fait le minimum contre les narcotrafiquants. Ça génère une économie parallèle. Il suffirait de contrôler les achats de certaines personnes qui sont sur notre territoire et leur demander d'où ils tirent leurs ressources. Quand on voit des gens au chômage qui roulent en grosse berline allemande ou autre, particulièrement l'État doit agir. Voilà ce que dit Martine ce matin au 0612 424 424. Ali nous dit, le narcotrafic qui a augmenté ces 20 dernières années, la vraie question n'est pas comment faire pour lutter, mais est-ce qu'on a vraiment voulu lutter contre les narcotrafiquants et contre les consommateurs? Voilà quelques-uns de vos messages ce matin au 0612 424 424.
C'était les messages donc au 32-16. Il est 8h20. Dans un instant, mon invité dans le face-à-face, c'est Thierry Breton. Thierry Breton, ancien ministre de l'économie et ancien commissaire européen. Il est dans un véritable bras de fer avec les États-Unis. Et c'est le cas de la France globalement. Vous le savez, l'ambassadeur des États-Unis en France a été convoqué hier soir au ministère des Affaires étrangères. Il s'est tout simplement pas pointé. Il n'est même pas venu. Il sera puni. Il n'aura plus accès au gouvernement français. C'est un point supplémentaire dans l'escalade entre les États-Unis et la France. On va parler droits de douane aussi, évidemment. Et économie, il est 8h21. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Thierry Breton.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien commissaire européen, bien sûr, ancien ministre de l'économie. Vous êtes aujourd'hui sous une forme de sanction de la part des États-Unis. Vous n'avez plus le droit au visa. Et je voudrais particulièrement vous interroger sur ce qu'il s'est joué hier soir, ce qu'il se joue aujourd'hui. L'ambassadeur des États-Unis en France était convoqué au ministère des Affaires étrangères à 19h. Il ne s'est pas présenté. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit des États-Unis? Et on parlera ensuite des sanctions qui vont être prises par la France à son encontre. Qu'est-ce que ça dit des États-Unis de ne même pas honorer un rendez-vous avec le ministère des Affaires étrangères?
Dans la gradation des tensions qui peuvent exister, ou des irritants, on va dire, qui peuvent exister entre les États, il y a effectivement un certain nombre d'éléments qui sont normés. Comme par exemple la convocation d'un ambassadeur. C'est pas la première fois du reste que l'ambassadeur des États-Unis en France se fait convoquer par le Quai d'Orsay. Alors on sait qu'il n'a pas du tout d'expérience diplomatique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais enfin, ceci n'excuse pas, bien entendu, les attitudes ou les propos, et c'est dans ce contexte que le Quai d'Orsay, lorsqu'il l'estime nécessaire, convoque l'ambassadeur. Alors la première fois, il n'est pas venu, il avait envoyé un numéro 2 à un numéro 3, cette fois-ci, il ne vient pas. Ben voilà, c'est un constat.
Un constat de quoi? C'est-à-dire, c'est un constat quoi? D'arrogance, de refus de dialogue, de volonté de rupture.
Apolline de Malherbe, il faudra lui demander, parce que évidemment, s'il le fait, c'est qu'il a sans doute des raisons. Il sait ce qu'il fait. En tout cas, on peut l'espérer. Personnellement, moi, je suis attaché, encore une fois, à des relations apaisées avec les États-Unis. Alors on voit ce qui se passe, et j'en suis aussi la victime. Mais je continue à dire qu'il est absolument indispensable de garder évidemment une relation équilibrée, en tout cas à travers ceux qui ont la responsabilité des canaux. Bon, alors on voit que l'ambassadeur actuel des États-Unis, il préfère visiblement recevoir Madame Le Pen et Monsieur Bardella que d'aller voir Monsieur Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Très bien, c'est son choix. Il est effectivement dit, il est assumé. Il est là pour s'appuyer et pour développer le Rassemblement national en France. Il le dit de façon très explicite. Je n'invente rien. Il suffit de lire, encore une fois, ce document de la sécurité nationale qui a été, je dirais, la bible diplomatique du Département d'État américain en décembre 2025, en indiquant précisément que les États-Unis avaient l'intention désormais de s'appuyer sur les partis extrémistes d'extrême droite en Europe pour affaiblir l'Europe et ses institutions. Très bien, il le dit, c'est pas pour autant une raison pour ne pas aussi travailler avec
Thierry
ceux
Breton,
qui incarnent démocratiquement le choix des électeurs français. Pour l'instant, le choix des électeurs français, c'est évidemment d'avoir porté au pouvoir le gouvernement tel qu'il est avec son président.
Ce que vous nous dites, Thierry Breton, c'est qu'au fond, ça n'est pas du tout un hasard de calendrier ou une difficulté d'agenda. Il y a un ambassadeur qui, quand il ne vient pas sciemment à une convocation, le fait, semble-t-il, avec l'accord, voire même en harmonie avec la décision de Donald Trump. Mais surtout, vous nous dites qu'au fond, il y a une véritable ingérence politique.
Bah, en tout cas, il suffit encore une fois de lire, je dirais, la philosophie, la ligne désormais de conduite du département d'État américain, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères américain, qui dit, je le redis de façon très explicite, qu'il veut s'appuyer sur tous les partis d'extrême droite en Europe pour mettre à mal les institutions européennes et vassaliser l'Europe. C'est écrit noir sur blanc. Voilà, il faut qu'on en tienne compte. Alors moi, je le regrette personnellement. Moi, je suis un ami des États-Unis. Quelles que soient, encore une fois, les évolutions politiques, je le regrette. Mais c'est ce qui est dit, il faut que nous, encore une fois, on en tienne compte. Il n'en demeure pas moins, et je le redis par rapport à votre question, il n'en demeure pas moins que nous devons avoir des relations qui sont des relations équilibrées. Si jamais l'ambassadeur est convoqué, évidemment, avec un allié, il faut venir, ou en tout cas, envoyer son numéro 2.
On verra effectivement pour la suite, mais au fond, quand vous dites « il veut s'appuyer », est-ce que il veut juste s'appuyer ou est-ce qu'il veut favoriser? Et là, on serait dans ce cas-là dans une forme de manipulation. C'est-à-dire, est-ce que vous dites, il faut être vigilant? Est-ce que les États-Unis vont activement faire en sorte qu'un parti gagne plutôt qu'un autre?
Personne ne le sait. En tout cas, on voit les intentions. Elles sont exprimées. Certains les expriment de façon très explicite, comme par exemple Monsieur Steve Bannon, qui dit de façon très très explicite ce qu'il attend des résultats des élections en 2027
Mais Steve Bannon n'est pas membre de l'administration.
Mais il fait partie, encore une fois, de cette galaxie MAGA. Mais vous savez, pour...
MAGA, Make America Great Again.
Pour faire en sorte que nous préservions notre démocratie, nous avons des lois, ces lois doivent être respectées. Nous avons également des lois désormais dans l'espace informationnel, dans l'espace numérique. J'en ai été le rédacteur. Ces lois doivent être appliquées, non pas encore une fois... en discrimination, mais pour protéger nos institutions, pour protéger notre démocratie.
Est-ce qu'elle est fragile, notre démocratie? Est-ce qu'elle est vulnérable à leurs intentions, voire même peut-être à leurs actions?
Notre démocratie est fragile si ceux qui sont en charge d'appliquer les lois ont la main qui tremble. S'ils n'ont pas la main qui tremble, et je pense en particulier à la Commission européenne, qui doit appliquer ses lois désormais, non pas encore une fois de façon véhémente, de façon violente, mais tout simplement, lorsqu'ils voient qu'il y a des manquements, et je parle de l'espace informationnel, ils ont l'obligation d'appliquer ces lois sans discrimination, ça veut dire évidemment sans ostracisation également, mais il faut le faire, et ces lois, je le redis, protègent évidemment, sont faites pour nous protéger dans cet espace informationnel, bien sûr nos enfants, c'est ce qu'il y a de plus important, mais aussi notre démocratie, il faut donc appliquer les lois.
On va revenir à cette question justement de l'information du numérique, mais dans la mesure où l'ambassadeur ne s'est pas présenté, il aura désormais plus de difficultés à accéder aux membres du gouvernement français. C'est une sorte de sanction à son endroit. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on est suffisamment ferme avec les États-Unis?
J'ai pas de jugement à porter encore une fois sur la façon dont le Quai d'Orsay veut réagir. Je crois qu'il a bien réagi. Et j'espère que, au fond, on va retomber dans une normalité.
Je suis frappé par la manière dont vous ne voulez pas mettre d'huile sur le feu.
Oui, parce que c'est normal, encore une fois. On voit très bien les choses telles qu'elles se passent. Je vous les ai décrites à l'instant. On sait très bien où sont les aspirations, encore une fois, du gouvernement américain actuel par rapport au parti d'extrême droite en France et en Europe. On le voit très bien. On voit que l'ambassadeur des États-Unis a également ses aspirations. J'ai rappelé tout à l'heure le fait qu'il a reçu en grande pompe les deux leaders d'extrême droite en France, Madame Le Pen et Monsieur Bardella, c'est son choix. Et encore une fois, je ne le critique pas. Et je ne critique pas non plus eux s'ils vont le voir. Mais on sait encore une fois où il est. Très bien. Il faut en tirer les conséquences. Il n'en demeure pas moins que nous sommes nous-mêmes une grande démocratie et qu'on doit travailler, qu'on doit discuter avec les États-Unis à travers les canaux officiels.
La question ensuite de la puissance de l'Europe et de son harmonie, notamment vis-à-vis de la Russie, on va y venir, mais une dernière question sur la relation avec les États-Unis. Emmanuel Macron a écrit personnellement à Donald Trump pour parler de vous, pour lui demander, je cite, de reconsidérer les décisions de l'administration et de lever les sanctions injustement imposées à Nicolas Guilloux, qui est donc ce juge français, et à Thierry Breton. Savez-vous s'ils ont répondu et si les choses suivent leur cours?
Non, je n'ai pas cette information, Pauline de Malherbe. Mais en tout cas, j'ai vu.
Donc ils n'ont pas répondu, sinon vous le sauriez.
Je crois que cette lettre est assez récente, donc on va peut-être laisser le temps, peut-être qu'ils la reçoivent et qu'ils la discutent. J'ai évidemment été sensible de.
Enfin, j'imagine qu'elle n'est pas envoyée par la poste.
Qu'elle a dû
arriver assez vite.
Ça sert à ça aussi les ambassadeurs. C'est pour ça qu'il faut continuer à avoir des contacts. Mais voilà, donc j'ai bien entendu pris ça comme je devais le prendre. C'est-à-dire que j'étais sensible effectivement au fait que le président de la République le dise et dit quoi. Il dit que tout simplement, que ce soit le juge Guilloux ou moi-même, nous avons tout simplement exercé notre mandat, notre travail, sans discrimination, sans vouloir ostraciser quiconque, tout simplement par rapport, encore une fois, à ce qui nous était demandé. Et en ce qui me concerne, je le rappelle, bien sûr, j'ai proposé ces textes de loi qui encadrent le numérique désormais, c'est ô combien nécessaire.
Et c'est au titre de cela que vous êtes aujourd'hui sanctionné par les États-Unis.
Mais je le redis, ceux qui font les lois, et heureusement, nous sommes dans une démocratie, c'est le Parlement européen qui a voté à près de 90%, les députés, 90% des parlementaires européens ont voté. C'est donc eux qui sont, évidemment, qui devraient être sanctionnés, mais je ne le souhaite pas.
Vous payez pour tout le monde, vous portez le chapeau.
Et les 27 États membres qui ont voté à l'unanimité. Vous voyez, c'est finalement toute l'Europe qui est concernée.
Vous êtes le bouc émissaire de tout le monde. Enfin, tout de même, Thierry Breton, il est frappant de voir que Emmanuel Macron écrit à Donald Trump et Donald Trump ne répond pas.
On verra.
En tout cas, pour l'heure, il n'a pas répondu. Un mot sur les droits de douane. On a du mal à suivre désormais, mais au fond, ce ne sont plus les changements de pied de Donald Trump, c'est désormais la justice américaine, la Cour suprême qui condamne Donald Trump sur ses droits de douane. Il avait commencé par dire qu'il passerait outre. pourra-t-il le faire? Est-ce qu'au fond, le meilleur gardien des relations, ce n'est pas justement la démocratie, y compris la démocratie américaine, au fond?
Eh bien oui, on retombe dans le droit. Et au fond, je suis de ceux qui regardent ça, évidemment, avec beaucoup d'attention, vous l'imaginez. J'imagine. Mais aussi, je ne vais pas non plus m'en réjouir, c'est, encore une fois, les institutions américaines qui fonctionnent. Vous savez, on appelle ça le check and balances, c'est-à-dire les contre-pouvoirs. Eh bien, les contre-pouvoirs ont fonctionné, bien que la Cour suprême, je le rappelle pour nos auditeurs, elle est plutôt à la main aujourd'hui, puisqu'il y a ces 9 juges donc qui prennent les décisions suprêmes, c'est un peu l'équivalent de notre Conseil constitutionnel. Sur ces 9 juges, il y en a 6 qui ont été qui sont des républicains ou nommés par Donald Trump. Et bien malgré tout, ils ont dit le droit, et le droit, c'est que on ne peut pas, aux États-Unis, et quelque part Donald Trump ne peut pas, utiliser les droits de douane comme il les a utilisés, c'est-à-dire comme des armes, comme des revolvers. Vous savez, on disait, il met un revolver sur la table, et quand il discutait, il vous disait, si jamais tu fais pas ce que je veux, je vais te mettre 30%, 40%, 50% de droits de douane. Eh bien, on se rend compte que ce revolver, bah, c'est un revolver à eau. Il n'était pas chargé.
Il n'était pas chargé. Il n'y aura donc pas. Comment vous voyez la suite?
Alors, la suite, c'est qu'il y a quand même une disposition, cette fameuse section 122, donc qui autorise le président des États-Unis pour rester dans le droit, encore une fois. Parce qu'encore une fois, les relations internationales sont encadrées par le droit. Pour rester dans le droit, donc il autorise donc à mettre pendant 150 jours. Donc des droits de douane à hauteur de 15% maximum. Donc il a utilisé ce qui est maintenant autorisé par la loi. Enfin, il respecte la loi dans les relations internationales. C'est donc une bonne chose. Mais dans 150 jours, on verra, il faudra qu'il repasse devant le Congrès. Donc on est dans l'incertitude la plus absolue. J'ajoute que toutes les décisions...
On reste dans l'incertitude.
Mais je voudrais rendre hommage ce matin à votre micro au Parlement européen. On se souvient de cet accord, on va le dire, calamiteux, qui a tellement humilié les Européens, qui avait
signé
été scellé par
Ursula
von der Leyen et Donald Trump dans ce golfe de Tanbury, donc au nord du Mexique, où finalement on avait le sentiment qu'on avait tout lâché, pour rien. Eh bien, le Parlement européen a refusé de ratifier cet accord, qui était un accord tellement déséquilibré. Ils ont repoussé la décision. La décision, tenez-vous bien, devait être prise aujourd'hui. Eh bien, compte tenu de l'incertitude absolue et du fait qu'on a changé, encore une fois, de régime, grâce au Parlement européen, eh bien, on n'a pas cédé. Et au fond, on rentre maintenant dans une nouvelle phase de cette nouvelle normalité, vous voyez, je mets des guillemets, donc par rapport aux négociations. Il faut encore une fois remercier le Parlement.
Est-ce que ça veut dire que les dirigeants, de la Commission européenne avaient en quelque sorte trahi?
Eh bien, en tout cas, ils sont encadrés. Il faut jamais qu'ils l'oublient. Ils sont encadrés par le Parlement, ils sont encadrés par le Conseil. Eh bien, le Parlement européen, et notamment, a décidé de dire, on peut pas ratifier cet accord. Et donc, ils ont repoussé la décision. Ils ont bien fait. On rentre maintenant dans une nouvelle phase. Alors, cette nouvelle phase, il va falloir rediscuter. Mais c'est une phase qui est encadrée, désormais, par le droit. Et dans le droit des relations internationales, y compris commerciales, on peut plus faire n'importe quoi. On peut plus non plus accepter, en tout cas la Cour suprême vient de l'interdire au président des États-Unis
de faire n'importe quoi,
je vais vous faire un port de force parce que
et d'en faire une arme. Vous avez peut-être vu cette information, je vous en parle parce que précisément vous évoquez Ursula von der Leyen. Ce sont mes confrères de Politico qui ont révélé qu'un appel d'offres avait été lancé par la Commission européenne pour augmenter de 50% le budget des jets privés des dirigeants de l'Union européenne. Ça vous paraît le bon moment ça?
Non, ça ne me paraît pas le bon moment. Il faut donner l'exemple. Chacun doit donner l'exemple. Et j'estime qu'effectivement...
Vous preniez beaucoup de jets privés quand vous étiez commissaire européen?
Eh bien, quand je les prenais, c'est moi qui les payais.
C'est vous qui les payez?
Absolument.
Vous avez fait des déplacements professionnels?
J'ai fait des déplacements et je les ai payés moi-même. Je n'ai jamais voulu que la Commission paye quoi que ce soit. Notamment quand je m'occupais des vaccins.
Quand vous vous occupiez des vaccins, vous avez réglé vous-même?
Absolument.
Avec votre argent personnel.
Mon argent, je n'ai jamais voulu solliciter, c'est normal, et je n'en tire aucune gloire.
Quand il fallait utiliser les jets privés,
Parce qu'il n'y avait pas de solution, parce que l'espace aérien était fermé pour les vaccins.
Alors c'est d'autant plus intéressant, Thierry Breton, qu'effectivement c'est un exemple qui est pointé par la Commission européenne, qui dit on a besoin de davantage de jets privés parce que regardez quand il y a eu le Covid, il y avait des avions qui marchaient pas, parce que évidemment les complications aujourd'hui de l'espace aérien avec le après ça pose quand même un problème, Thierry Breton, c'est que peut-être vous aviez les moyens vous de le faire.
Et bien,
si vous n'aviez pas eu les moyens, est-ce que ça veut dire que certaines des décisions cruciales qui ont dû être prises pour les vaccins n'auraient pas eu lieu?
Madame Apolline de Malherbe, il y a un budget pour ça. Eh bien, dans ces conditions, j'aurais sollicité le budget, je n'ai pas voulu le faire. pour des raisons, encore une fois, qui m'appartiennent.
En tout cas, ça n'est pas le moment de demander 50% de plus. Une question aussi sur cette harmonie européenne, ou cette fragilité, justement. L'Ukraine, 4 ans de guerre, et il n'y a pas eu d'accord sur des nouvelles sanctions contre la Russie, parce qu'il y a le veto hongrois. C'est un revers, voilà ce que dit notamment la France et les ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. Nous n'avons pas les moyens de passer outre, nous sommes bloqués par ce veto.
Non, on en est encore une fois au 20e paquet de sanctions, on le sait, on en a passé 19, donc moi j'ai confiance, on va le passer ce paquet, le 20e, mais on sait que évidemment, là encore, et on en revient au début de notre discussion à Pays de Malherbe, il y a en Europe certains pays qui sont, on sait, anti-européens, c'est clair, en tout cas qui anti-institutions européennes, et donc il faut savoir les gérer. On parle évidemment de la Hongrie, on peut parler aussi de la Slovaquie avec Robert Fico. Hein. Par parenthèse, ce sont les deux seuls dirigeants que le secrétaire d'État, donc Marco Rubio, est venu saluer lorsqu'il est venu la semaine dernière, il y a 10 jours.
On en revient à ce que vous dites sur la volonté d'affaiblir les institutions européennes.
On en revient encore une fois. Ce sont ceux qui sont donc les alliés également, les alliés donc désignés par l'administration Trump en Europe pour affaiblir l'Europe. Voilà.
Pardon, mais encore une fois, qu'on en tienne compte. Toujours une question, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Quel est l'intérêt des Américains dans une situation mondiale où ils ont face à eux la Russie, la Chine, d'affaiblir ceux qui sont leurs amis ?
Mais Madame de Malherbe, parce qu'encore une fois, l'histoire nous apprend que évidemment, qui mène les guerres aujourd'hui ou qui est dans ce contexte de belligérance, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et encore une fois, ils le font comme ils décident de vouloir le faire. Et puis on sait que derrière, il y a évidemment le rapport de force, peut-être même conflit qui est en ligne de mire. Je parle évidemment entre les États-Unis et la Chine. Et qui doit financer ça ? Évidemment, les vassaux. Nous sommes aujourd'hui vus par une grande partie des États-Unis, pas tous encore une fois, mais notamment par, je dirais, cette dynamique MAGA dont on a parlé tout à l'heure, comme étant évidemment ceux qui doivent soutenir les vassaux. C'est fait pourquoi ? Bah, c'est fait pour payer les guerres. Voilà. Donc, ou bien, vous savez, les électeurs en 2027 en France, ils vont avoir un choix assez simple. Hein. Ou bien on choisit de porter au pouvoir ceux qui favorisent cette dynamique enclenchée par les États-Unis, ou bien ils résistent. Voilà, bah les choses sont en train de devenir de plus en plus claires.
Pour vous, les questions de politique intérieure en France, il faudra aussi les regarder à l'aune de la question de la relation
avec les États-Unis. Mais regardez ce qui se passe dans le monde. C'est une évidence. À mon avis, ça va devenir l'un des critères les plus pertinents, les plus importants. Regardez du reste les sondages. Aujourd'hui, près de 60% des électeurs en Europe estiment que cette dynamique-là va à l'encontre de l'Europe et de leur propre pays. Eh bien, chez nous, c'est pareil en France. Voilà, les électeurs vont avoir le choix. Il va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure on va rentrer dans la campagne.
Avec ou contre les Américains et les alliés américains, c'est toujours nos alliés, vous le dites.
Bien sûr, ce sont toujours nos alliés, en particulier dans le cadre de l'OTAN, mais il faut continuer à leur parler. Mais vous savez, pour parler avec eux, et je le redis, moi je connais bien les États-Unis, j'aime ce pays, ben voilà, il faut savoir aussi exercer des rapports de force lorsqu'ils sont légitimes et qu'ils s'inscrivent dans le droit. Et nous devons en permanence s'inscrire dans le droit.
Merci Thierry Breton, ancien commissaire européen et ancien ministre de l'économie, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Il est 8h47, tiens un mot aussi pour vous dire que ce soir la politique, le grand débat des municipales à Lyon, ce sera à suivre à 20h50 sur BFM TV.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Vanessa Perret, procureur du parquet anticriminalité organisée, était l'invité du face-à-face. Patrick Balkany a souhaité lui dire un mot. Patrick Balkany, tiens, vous voulez lui dire un mot, bonjour.
Eh bien, je dis bonjour Madame Perret, c'est Monsieur Levallois.
Oui.
Oh, ben écoutez, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Ben, c'est Apolline qui a commencé, hein, en vous disant, alors vous n'aimez pas les pépitos? J'ai écouté attentivement votre interview, chère Apolline. Hein. Les narcotrafiquants qui se font quand même 50 000 d'euros par jour. Ça, t'as entendu, Isabelle? 50 000 euros quand même. Hein.
Oui, j'ai entendu. Tu vois, Patrick, on est vraiment des petits joueurs.
Ah ben, tu m'étonnes. Les gars, ils reviennent du Maroc avec des kilos de shit. Hein.
Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait en ramener plutôt que s'emmerder avec ton service à tagine.
Oh, Isa, t'es dur avec moi. Il est très bien, mon service à tagine.
50 000 euros par jour? Non, mais t'imagines, mais faut qu'on arrête de frauder le fisc. Hein, y a beaucoup mieux à faire.
Ah. Vous avez entendu, Madame la procureure, grâce à vous, avec Isabelle, on va arrêter de frauder le fisc.
C'est beau. Merci, Monsieur Balkany.
Nicolas Dufour, lui, directeur général de BPI France, était mon invité ce matin dans le face-à-face. On est évidemment revenu sur le discours de Donald Trump à Davos et puis sur celui d'Emmanuel Macron.
Hey! Bonjour à tous et à toutes, ça va?
C'est très impressionnant.
Oui, ben écoutez, j'y vois mal, alors je me lève. Non, ça vous impressionne pas trop avec mes lunettes de badass comme ça et mon charisme de biker tatoué?
C'est vrai que c'est très impressionnant.
Attention, je crois qu'il y a Élise Dangean qui est en train de s'évanouir.
Elle est amoureuse.
Mme de Malherbe, chère Apolline, vous voulez toucher mes pectoraux?
Ça va aller, ça va aller.
Attention, parce que l'acier, c'est froid.
Ah, oui. Monsieur le Président, vous étiez donc du côté de Davos pour le Forum économique mondial. Le contexte est très tendu. Comment ça se passe avec Donald Trump?
Mais écoutez, il passe son temps à me chambrer, me demander de le rejoindre dans son conseil de la paix. Mais vous iriez-vous dans un conseil de la paix quand la paix est assurée par Trump, par Poutine, Orban et Javier Milei, hein? Franchement, mais non, c'est un peu comme aller dans une jardinerie Michel Fourniret ou dans une crèche Véronique Courgeot, je dis non, merci.
Pour forcer les Européens à lui vendre le Groenland, Donald Trump a aussi annoncé une hausse des droits de douane. Et pour tenter de mettre fin à ce conflit, on appelle tout de suite Julien Courbet.
Aïe, aïe, aïe. Oui, bonjour à tous, c'est Julien Courbet, bonjour Apolline, bonjour à Thierry Breton qui est venu nous rejoindre dans ce studio, il est le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser non pas au cas d'une personne, chère Apolline, mais carrément, puisque cette émission prend une grande dimension, nous allons nous intéresser carrément au cas du peuple, pardonnez-moi, groenlandais, qui ne souhaite pas vendre son pays, c'est notre dossier, ne souhaite pas vendre son pays à un certain monsieur, je prends ma fiche, Monsieur Trump, je crois, voilà. Donc vous savez ce qu'on va faire, ma chère Apolline, nous allons tout de suite en régie appeler ce monsieur voilà. Trump, on compose le numéro en régie.
Hello.
Oui, monsieur Trump, pardonnez-moi de vous déranger, c'est Julien Courbet, désolé, je vous appelle de la part de personnes qui se plaignent, il semble que vous voudriez acheter un pays qui n'est pas à vendre.
Ok, c'est pas grave, si je peux pas l'acheter, alors je vais le voler. Si, comme le Venezuela, non. Et s'il y en a qui sont pas contents, je mets aussi des droits de douane. Du 200%.
Non, écoutez, attendez, monsieur Trump, ne faites pas ça, monsieur Trump. En plus, je vois sur ma fiche que vous êtes dans le commerce et j'ai un de vos petits fournisseurs, un certain monsieur Macron, qui n'est pas content, qui ne voudrait plus vous vendre ses spécialités et produits du terroir.
Oui, je le connais, c'est Emmanuel. Je connais bien, c'est un chic type, le Tom oui. Cruise, Marc Repère. C'est pas grave s'il ne veut plus me vendre. Alors non, me passerai de ces Twingo et de ces films chiants avec Vincent Lando. Et vous, de votre côté, faudra vous passer de Microsoft et de Google.
Non, écoutez, monsieur Trump, ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas acheter tout ce que vous voulez, surtout quand le vendeur ne veut plus de vous, ne veut pas
Fake
de vous.
Fake news, tout s'achète. Même le Groenland. Regarde, Courbette. Mélania, elle était froide et elle voulait pas de moi, comme le Groenland. Eh ben, je l'ai acheté quand même.
Non, écoutez, on entend votre position, ça se défend, monsieur Trump. Mais on ne lâche pas le dossier, nous reviendrons vers vous parce que vous connaissez, chère Apolline, cher Thierry, le slogan de notre émission. Ce n'est pas parce qu'on a servi à rien cette fois-ci qu'on ne sera pas capable d'être inutile la prochaine fois.
Analyser l'information
qui a nommé des villes à
notre militaire maison 1, Vincent Moscato.
RMC, le super Moscato Show.
C'était si dur ce matin, retour mastique. Compliqué ce matin, je suis fracassé. Tel que tu me vois, je me réveille. Hein, tu vois, je me réveille juste du réveillon. J'entends de partout Maduro. Putain, je crois que c'était un joueur des îles Tonga, moi. Non. Apparemment, c'est le carrément le président des îles du Venezuela. Voilà, donc le film d'action, les Américains. Ils débarquent, sans des avions de chasse, sans hélicoptères, et ils font pas le voyage pour rien. Ils sont pas venus juste pour boire l'eau des pâtes. Tu vois, les Américains, tranquilles, ils rentrent dans le pays sans sonner à la porte. Tu vois, tranquille, ils arrivent. Ils s'essuient carrément les pieds sur la moustache de Maduro. T'as vu la moustache du gosse? La moustache, putain, un scratch de 3 mètres d'épaisseur, gros. Un balai brosse qui aurait couché avec un sourcil de Le Cornu. Sous les narines, il s'est coulé un furet mort, gros.
Donald Trump a déclaré qu'il s'occuperait désormais du pétrole vénézuélien.
Tranquille, tranquille, gosse. Comme à la maison, il prend le pétrole, il se sert. Tu vois, c'est le costaud de la récré qui te pète la gueule pour manger ton Kinder Bueno, tu vois. Trump, c'est sa manière à lui de faire les courses. Il va faire des forages de pétrole partout. Ça va perforer dans tous les sens. Tu vois, Trump, c'est Rocco Siffredi bourré de Viagra qu'on lâche dans une fabrique de gruyère, gros. Il va te faire plus de trous que de gruyère, gros. C'est le fromage. Attention, je préviens, la bête est là. Elle blanche, la bête. Qui reprendra lui aussi.
Merci Nicolas. Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain à 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG avec Olivier Truchot. Bonjour Olivier, quel est le menu ?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les Grandes Gueules sont en direct de Lyon ce matin. Deuxième étape de notre tournée spéciale municipale avec autour de la table Emmanuel Devilliers, Bruno Poncet, notre cheminot, et puis Barbara Lefebvre. Venez nous voir au Palais de la Bourse à Lyon pour une émission spéciale municipale en direct de la capitale des Gaules.